6h sur Europe 1.
J'en appelle donc au volontariat des professionnels de santé compétents en réanimation, médecins, infirmiers, aides-soignants, et les invite à se signaler dès maintenant.
Des bras pour les personnels des hôpitaux d'Île-de-France qui enregistrent un tiers des décès liés au coronavirus. Aujourd'hui, 36 patients vont être transférés vers la Bretagne pour alléger la pression. Besoin de bras, besoin d'écoute aussi. Pensez les plaies psychologiques des médecins, infirmiers, aides-soignants. Nous avons contacté un centre d'appel d'écoute.
Bien sûr, le soignant, il va faire son choix, mais après, il va falloir qu'il puisse déverser ce trop-plein émotionnel, amener le soignant à ne pas rentrer dans une spirale de culpabilisation.
499 décès supplémentaires en 24 heures en France. Mortalité quotidienne record aussi au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis. Un virus qui a emporté cette nuit Pape Diouf, personnalité du foot, ancien président de l'OM, mort à 68 ans, premier président noir d'un club de France. Et puis, des rougeurs, des gerçures, des crevasses. Nos mains, lavées des dizaines de fois par jour, sont mises à rude épreuve. Nos bons conseils dans ce journal.
Bien mettre une crème, comme si on mettait un masque sur le visage. À ce moment-là, mettre une crème un peu masque sur les mains pour qu'en fait, elles se reposent et qu'elles se réhydratent la nuit.
Votre invité à 6h40, Mathieu.
Nous allons explorer la thématique des fake news. Vous le savez, nous sommes le 1er avril, mais dans ce contexte, pas de blague. Aujourd'hui, nous serons avec Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, en direct à 6h40. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
499 personnes sont mortes à l'hôpital des suites du Covid-19 ces 24 dernières heures en France. Pire bilan quotidien, la barre des 3500 décès est franchie, 3523 selon le dernier bilan des autorités. Un tiers de ces décès est survenu dans les hôpitaux d'Île-de-France où la tension dans les services est très forte.
Pour alléger la pression, 36 patients vont être transférés aujourd'hui vers la Bretagne à bord de deux TGV médicalisés. C'est le premier transfert depuis l'Île-de-France. Les personnels hospitaliers ont aussi besoin de bras supplémentaires. Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, lance un appel à la mobilisation.
La situation est aussi difficile en Île-de-France. J'en appelle donc au volontariat des professionnels de santé compétents en réanimation, médecins, infirmiers, aides-soignants, et les invite à se signaler dès maintenant sur les plateformes du ministère des Solidarités et de la Santé pour soutenir les équipes du Grand Est ou sur la plateforme renfort-covid.fr pour soutenir les équipes d'Île-de-France. Ils seront bien entendu, mais c'est important de le rappeler, hébergés gratuitement.
Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, propos recueillis par Mathieu Charrier. 36 patients d'Île-de-France transférés, autres régions sous très forte tension. Le Grand Est, les transferts s'y poursuivent. Une vingtaine de patients supplémentaires soignés désormais au Luxembourg, en Allemagne et en Suisse.
Pour aider au mieux les soignants, Emmanuel Macron a promis hier 4 milliards d'euros pour l'achat de médicaments, de respirateurs et de masques. Mais ces médecins, infirmiers, aides-soignants ont aussi besoin de soutien psychologique.
Les gardes sont interminables, les choix incessants avec des vies en jeu. À Aix-en-Provence, l'hôpital psychiatrique Montperrin propose une consultation gratuite par téléphone, ouverte à tous, mais au bout du fil, ce sont bien souvent des soignants. Nathalie Chevance.
Au bout du fil, 4 psychologues formés à la médecine d'urgence se relaient pour écouter les souffrances, soulager le stress, comme dans une situation de catastrophe, un crash aérien, un attentat. Exemple de questions posées par des soignants, Pascal Rio, directeur du centre hospitalier Montperrin.
Comment je peux faire pour prendre en charge 2 patients alors que je n'ai qu'un seul lit ou un seul respirateur? Donc des grosses questions éthiques qui se posent. Bien sûr, le soignant, il va faire son choix, mais après, il va falloir qu'il puisse déverser ce trop-plein émotionnel, amener le soignant à ne pas rentrer dans une spirale de culpabilisation.
Désarroi aussi des soignants face à la pénurie de matériel avec un flux d'informations pas toujours très clair. C'est ce qui revient également aux oreilles des psychologues.
C'est assez compliqué quand on vous dit mettez-vous un masque pour le matin et un masque pour l'après-midi, et le lendemain où on vous dit non, un seul masque sur toute la journée, ça sera suffisant. En fait, les consignes évoluent au fil aussi de la gestion de la pénurie, notamment de masques et autres dispositifs. Et les soignants sont quand même assez perturbés par ces messages, on va dire fluctuant, pour ne pas dire contradictoire.
Voilà donc un point d'écoute pour que les soignants puissent se décharger en dehors du cadre de travail pour tenir sur la durée en passant s'il le faut par une consultation psy de proximité, un dispositif qui va monter en puissance dans les prochaines semaines.
Et on vous le disait, record du nombre quotidien de décès hier en France, 499. C'est aussi le cas au Royaume-Uni, où un jeune de 13 ans a notamment perdu la vie. En Espagne et aux États-Unis, 865 décès pour un total de près de 4000. Les deux prochaines semaines seront très douloureuses, a prévenu cette nuit Donald Trump. Précisons tout de même qu'en France, des personnes guéries sortent chaque jour de l'hôpital. Plus de 9000 pour l'heure.
Ce sera sans doute l'une des clés de la sortie définitive de la crise en France. Une fois le confinement levé, même si ce n'est pas pour tout de suite, hein. Une fois le confinement levé, les tests de dépistage sérologique, c'est-à-dire une analyse de sang.
Une seule goutte permet de savoir si on est actuellement malade ou si on l'a été et donc qu'on est immunisé. Le gouvernement a commandé 2 millions de kits, mais on ne sait pas encore quand ils seront disponibles pour le grand public. La première expérimentation de ce type en France se déroule en ce moment dans un EHPAD de Nancy.
Le déconfinement passera notamment par une bonne politique de tests, a dit hier soir Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, hier le Premier ministre, qui, à partir d'aujourd'hui, devra s'expliquer chaque semaine sur l'action du gouvernement contre le Covid-19.
Audition en visioconférence par les membres de la commission d'information sur la gestion du virus composée d'une trentaine de députés. Pour un Premier ministre omniprésent, Adrien Beck.
L'annonce du rallongement de la durée de confinement, c'était lui. Une longue conférence de presse pour expliquer choix et inquiétudes du gouvernement, c'était lui. Une audition pour ferrailler avec les députés de l'opposition ce soir, ce sera encore lui. Quand il faut prendre des coups, il y va, observe un conseiller ministériel. Présent partout, il sera encore à la télévision demain soir. Édouard Philippe se place en première ligne dans la gestion de crise. Les ministres ont été invités à être plus vigilants dans leur prise de parole. Quant à Emmanuel Macron, il se place en père de la nation quand Édouard Philippe gère le quotidien, note un conseiller. C'est donc le Premier ministre qui porte la communication de crise. Revers de la médaille, dit-on au sein de l'exécutif, en prenant de la distance, le chef de l'État met la pression sur Édouard Philippe. Un changement de méthode, une communication qui se veut plus transparente. Pour quel résultat? Je parie, se désole un député, que tout continuera quand même à être de notre faute.
Déclarer vos impôts, ce ne sera pas à partir du 9 avril comme prévu, mais à partir du 20, date décalée en raison de la crise sanitaire, annonce hier du ministre Gérald Darmanin sur TF1.
Et pour les dates limites, c'est fixé entre le 4 et le 11 juin si vous déclarez sur Internet, au 12 juin pour les déclarations papier.
Ce chiffre que l'on vient d'apprendre et qui illustre l'ampleur de la crise économique chute de plus de 72% en mars du marché automobile français, annoncent les constructeurs. Moins 73% pour PSA, moins 72 pratiquement pour Renault. De nombreuses entreprises souffrent pendant cette crise. Plus de 200 000 entreprises sont concernées par des mesures de chômage partiel. Certains patrons de PME, mais aussi des indépendants, pointent du doigt les assureurs. Ils leur reprochent de ne pas jouer le jeu. Ces entrepreneurs réclament une meilleure prise en charge de leur perte d'exploitation. Maud Descamps.
Patrons de PME indépendants, ils sont nombreux à avoir essuyé un refus de leur assureur. Le risque d'épidémie n'est pas couvert par leur contrat. Un geste a tout de même été fait, souligne Stéphane Penet de la Fédération française de l'assurance.
L'ensemble des assureurs a décidé de participer au fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics, de verser 200 millions d'euros sur ce fonds. Chaque assureur, par ailleurs, a mené des actions particulières auprès de ses assurés pour les aider dans ces moments difficiles.
200 millions d'euros, une somme dérisoire, estime Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants.
C'est une aumône, c'est indigne. Je rappelle que les assurances, c'est 2 428 milliards de placements. Et c'est 8 milliards de bénéfices nets en 2018. Le comportement des assureurs est indécent et irrespectueux.
Les indépendants et dirigeants de PME réclament la création d'un état de catastrophe sanitaire qui permettrait d'être indemnisé. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'y est dit favorable, mais cette mesure ne serait effective que pour la prochaine crise. Le ministre de l'économie attend donc des propositions des assureurs dans les prochains jours pour aller plus loin dans l'indemnisation.
C'est l'un des symboles de l'entraide et de la solidarité qui naît entre nous dans cette période de crise. Près de 150 000 personnes se sont portées volontaires pour aider le monde agricole, producteur, maraîcher dont l'activité est fortement impactée. Ramassage de fruits, de légumes, des candidatures de tous horizons. Il y a des retraités par exemple, mais aussi des salariés au chômage partiel. C'est même la majorité des postulants.
Bonjour Émilie Amblard.
Bonjour.
Vous avez répondu à l'appel du ministre de l'Agriculture pour venir en aide aux agriculteurs en manque de bras. Vous êtes en chômage partiel à la base dans la maroquinerie et vous avez signé un CDD chez un producteur laitier à Saint-Loup, en Haute-Marne. Vous êtes passé par cette plateforme, hein, des bras pour ton assiette, qui met en relation agriculteurs et Français qui veulent les aider. Vous aviez déjà travaillé dans un métier agricole, plus jeune peut-être? Vous aviez déjà une expérience?
dans l'agricole, pas du tout.
Bon, donc c'est une première pour vous. Ça a démarré quand ?
Mardi dernier.
Mardi dernier, il y a une semaine déjà. Comment est-ce que s'est passé cette première semaine ?
Ça s'est super bien passé. Ils ont été très gentils avec moi. Ils m'ont très bien expliqué le travail.
Et l'exploitant c'est chez qui vous travaillez, oui, j'allais vous demander, il arrive à vous expliquer, il prend le temps de vous former ?
Oui, oui, il prend bien le temps de tout m'expliquer, de me montrer pour que je puisse faire les choses correctement.
Et alors vous faites quoi chez un producteur laitier ?
J'ai travaillé un petit peu dans les champs pour faire les semis de printemps. Et
d'accord.
Là, en ce moment, c'est plus de la transformation laitière parce qu'il y a beaucoup de demandes.
Il y a beaucoup de demandes et vous l'aidez à assurer en tout cas cette demande. Simplement votre ressenti au bout d'une semaine, parce que c'est très différent du boulot que vous aviez d'ordinaire.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Et vous le vivez comment ?
Franchement, je suis contente de pouvoir découvrir un nouveau milieu que je ne connaissais pas. Et je trouve ça génial de pouvoir aider les agriculteurs qui sont dans le besoin en ce moment.
Oui, ils ont besoin de bras. Merci beaucoup, Émilie Amblard. Alors, d'ordinaire, qui travaille dans la maroquinerie, Émilie Amblard, mais là, en CDD, justement, chez un agriculteur, un producteur laitier à Saint-Loup, en Haute-Marne. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin.
Vous le savez, c'est le tout premier geste barrière martelé depuis le début de la crise par les autorités. Lavez-vous les mains.
Vous le faites sans doute des dizaines de fois par jour, c'est bien, mais ça met les mains à rude épreuve. Elles sont sèches, la peau se craquelle, c'est vrai, surtout si vous utilisez du gel hydroalcoolique, Pierre Herbulot.
C'est le comble pour un geste barrière, devenir agressif. Conformément aux consignes, Sophie se lave très régulièrement les mains. Elles en portent même des séquelles.
Elles sont soit toutes rouges, soit la peau est comme toute ridée en fait. Et parfois ça saigne, ça se crevasse en fait. Voilà. Et ça me tire, ça me brûle.
Des symptômes que connaît très très bien Jean Del. Il est interne à la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Il faut imaginer qu'en gros, à l'hôpital, on se lave les mains pratiquement à chaque fois qu'on touche une surface. Donc je dois me laver les mains, je sais pas, 15 fois par heure. À chaque fois que je vais voir un patient, je me lave les mains. Une fois que j'ai vu le patient, je me lave les mains. Il suffit que j'ouvre 3-4 portes, je me lave les mains.
L'eau savonneuse et encore plus le gel hydroalcoolique assèche la peau. Malheureusement, il n'existe ni alternative ni remède miracle. Le mieux pour la dermatologue Isabelle Rousseau, c'est d'être généreux sur la crème hydratante avant de se coucher.
Bien mettre une crème, vous savez, comme si on mettait un masque sur le visage, à ce moment-là, mettre une crème un peu masque sur les mains pour qu'elle en fait, elle se repose et qu'elle se réhydrate la nuit.
Au grand mot, les grands remèdes, oubliez les crèmes agréables et parfumées pour des crèmes grasses et beaucoup plus efficaces.
Et maintenant, Mathieu, je voudrais vous faire entendre cette voix singulière.
L'observation que je fais de cette huile depuis tant d'années est qu'elle a besoin fondamentalement que la donne change, non pas en s'appuyant sur des critères politico-idéologiques.
La voix de Pape Diouf en 2014, campagne pour le scrutin municipal à Marseille, ville si chère à son cœur, il y a acquis une immense popularité, autant que Bernard Tapie. En président pendant 4 ans, l'OM, l'Olympique de Marseille, le club de foot bien sûr. Pape Diouf est mort hier soir, il avait 68 ans, mort des suites du coronavirus.
Il s'est éteint dans un hôpital de Dakar au Sénégal alors qu'il devait être transféré dans un établissement niçois, mais une dégradation de son état de santé a empêché le voyage.
Premier président noir d'un club de foot en France, Jean-François Pérez nous raconte pourquoi il était une personnalité si singulière à Marseille et dans le monde du foot.
Voix grave et toujours posée, élocution académique, sens aiguisé de la formule, tel était Pape Diouf face au micro, un personnage unique dans le monde du foot. Quand il débarque à Marseille à 18 ans, ce fils de militaire sénégalais vit de petits boulots tout en menant de front des études de sciences politiques. Le virus du journalisme le prend, la Marseillaise, le sport, plume offensive, peur de personne et surtout pas de Bernard Tapie. Pape Diouf devient l'impresario de plusieurs joueurs africains, puis agent de joueurs tout court. En 2004, c'est le grand saut, manager général, puis président de l'OM pendant 4 saisons, sans trophée, mais pleine de panache. Son directeur sportif est alors José Anigo, très touché quand nous l'avons joint en fin de soirée.
Il avait son franc-parler, il a défendu l'institution bec et ongles quand il fallait le faire. Ce que les gens garderont de lui, c'est l'image d'un très bon président, certainement avec Bernard Tapie, celui qui aura marqué le club et il le marquera certainement à tout jamais.
À Marseille, tout le monde l'appelait par son prénom, Pape. Sa popularité chez les supporters était intacte malgré une aventure mitigée en politique au municipal de 2014. Chevalier de la Légion d'honneur, Pape Diouf se voyait comme un pont entre la France et l'Afrique. Il était aussi fier que gêné d'avoir été le premier homme noir président d'un grand club européen. Son héritage est considérable, sa succession est ouverte.
Et puis c'est une nouvelle décision spectaculaire qui attend aujourd'hui le monde du sport. Le tournoi de tennis de Wimbledon, tournoi majeur du calendrier, hein, prévu à partir de fin juin à Londres, devrait être annulé, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, annulé, un pas reporté, parce que c'est un tournoi disputé sur gazon et qu'en septembre, par exemple, eh bien, l'herbe manquerait de soleil et serait bien trop humide et glissante.
Ah ben oui, non mais c'est vrai qu'on ne peut pas décaler Wimbledon, il y a une question de saisonnalité. Merci Jérôme Lacroix. C'était le journal de 6h avec Jérôme Lacroix à 6h30. Identifier les risques en milieu confiné, les soignants dépistés en priorité dans les EHPAD d'Occitanie, on va en parler à 6h30 avec François Geffrier. 6h15.
Europe 1.
On a parlé du risque des violences conjugales dans cette période de confinement, des appels en hausse de 30%, nous disait-on. Et les enfants victimes de violences intrafamiliales. On va en parler dans un tout petit instant avec mon invité inattendu. A tout de suite.
La matinale d'Europe 1.
Mathieu Béliard. Il est 6h17 et vous êtes sur Europe 1. C'est l'heure, comme tous les matins, de l'invité inattendu. Vous le savez, un sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Ce matin, si ce n'est la voix que vous allez reconnaître, au moins ce générique. Scène de ménage tous les midis et tous les soirs sur M6. Et nous sommes en ligne avec José. Bonjour Frédéric Bourali.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous-même?
Bah, très bien, écoutez, moi j'ai mon attestation de déplacement dérogatoire pour aller de ma chambre à mon salon, tout va bien, tout est en ordre.
Tout est en ordre, chez Frédéric Bourali, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez accepté, avec le sourire, parler d'un sujet grave ce matin, puisque vous êtes engagé auprès de l'association L'Enfant Bleu, et qui milite pour la protection des enfants. Pour faire simple et pour démarrer, Frédéric Bourali, en période de confinement, il y a un vrai risque pour les enfants victimes à la maison?
Bah ouais, évidemment, c'est ça le danger, parce que majorité d'un moment, si vous voulez, c'est l'entourage familial et immédiat qu'il y a des soucis avec les enfants, vous voyez, voilà, je pense aussi aux femmes battues, hein, bien sûr, voilà, et dans ces cas-là, alors, c'est un facteur aggravant, si vous voulez, le confinement, mais il y a un avantage, si on peut appeler ça un avantage, c'est toujours difficile, c'est des mots dangereux, c'est que qui dit confinement dit voisinage plus...
Vigilant.
Le voisinage
présent, en fait.
En permanence. Donc, les voisins peuvent parfois intervenir. Alors, je sais que c'est toujours très délicat, évidemment. C'est très délicat de dire à des gens, bah, écoutez, appelez les 01 56 56 62 62 pour signaler quelque chose. Mais je sais que c'est très difficile. Parce que pour les gens de signaler à quelque chose, c'est très difficile. Parce que les gens se disent toujours, bah, écoutez, je vais avoir des emmerdements. Et si c'est pas vrai, je vais avoir de quoi. Je comprends très bien. L'avantage d'appeler ce numéro-là, c'est que c'est l'association qui s'en occupe. C'est l'association qui va faire après les démarches pour voir s'il y a vraiment un souci.
La différence entre ce numéro, je le redonne et je le redonnerai à la fin de l'interview pour les auditeurs, le 01 56 56 62 62. La différence avec le 119?
La différence, c'est que vous avez affaire directement à l'association Enfant Bleu. C'est-à-dire que là, il y a des psychologues, des gens très compétents, donc que je ne suis pas, moi, hein, bien sûr. C'est pour moi qui vais répondre, ne vous inquiétez pas. Des gens très compétents qui ont l'habitude de traiter ces cas-là, qui vont vous donner des conseils, ou qui vont tout de suite vous aiguiller vers le bon service que vous voyez pour essayer d'avancer un peu.
Et il faut saluer le travail de l'association que vous soutenez.
Comment faire eux-mêmes la prise en charge du problème éventuel.
Vous êtes l'ambassadeur de cette association L'Enfant Bleu, il faut saluer leur travail.
Je ne suis pas le seul, il y a Valérie Cassati, ma camarade qui joue avec moi, il y a Alice Poisson, il y a d'autres gens, il y a Julien Brieux qui nous a rejoints, il y a pas mal de monde, bien surtout une équipe extraordinaire de gens très 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 compétents. Et vous savez, la chose qui est formidable, c'est qu'il y a des enfants qui sont pris en charge par cette association et il y a des enfants qui s'en sortent. On croit toujours que c'est pas possible de s'en sortir. Eh ben si, il y a des enfants qui s'en sortent. C'est ça qu'il faut dire. Faut trouver des choses positives.
Et alors, vous citiez les ambassadrices, pardonnez-moi, hein, qui vous accompagnent. Parce que je notais une chose que vous disiez au sujet des violences, de la lutte contre les violences faites aux enfants. On entend peu les hommes.
Alors là, vous savez, c'est ma grande énigme, ça, pour moi. Je m'occupe beaucoup aussi des femmes battues, tout ça, enfin, depuis très longtemps, depuis vraiment très longtemps, avant votre naissance, peut-être même avant la mienne, c'est possible. Et j'ai toujours été très surpris de qu'on n'entende pas assez la voix des hommes. Et on est quand même en première ligne, on est quand même très concernés. Alors je sais pas, il y a une pudeur, il y a peut-être que les hommes se sentent pas légitimes, peut-être. Je pense que c'est une erreur. Hein. Je ne sais pas. J'avoue, j'ai beaucoup réfléchi à ça longtemps. J'en ai parlé avec beaucoup de femmes, d'autres hommes aussi, et j'ai eu de la difficulté à comprendre pourquoi les hommes ne s'engagent pas
dans ce combat. Alors il faut noter deux réalités. Je vais redonner le numéro aussi, mais je le dis pour ceux qui voudraient prendre de quoi noter. Mais donc deux réalités, parce qu'aujourd'hui, avant le confinement, c'est de l'école que viennent la moitié des signalements de maltraitance. Et donc, en l'occurrence, dans ce contexte, on est voisins, on est à la maison en ce moment, parce qu'il faut rester à la maison. Eh bien, peut-être qu'on reste à l'écoute et qu'on appelle, si on a un doute, le 01 56 56 62 62. C'est peut-être difficile de recenser en temps réel, il faut des enquêtes, etc. Mais lundi, il y a encore un petit garçon de 6 ans seulement qui est mort sous les coups de son père en Seine-Saint-Denis. Vous allez écouter, j'en suis sûr, notre enquête dans le journal de 7h avec Salomé Legrand. La France compte 50 000 enfants placés et 300 000 suivis au sein de la famille. L'aide sociale à l'enfance est considérablement impactée par ce confinement. Là aussi, il faut imaginer le contexte dans lequel il travaille.
Ah, c'est horrible. Bien sûr, c'est un cauchemar, bien sûr.
Et dans ce contexte, Frédéric Bourali, vous êtes assez actif sur Twitter. Au-delà de la cause des violences faites aux enfants, vous avez aussi, on va écouter, poussé la chansonnette.
On dit ne pas sortir, ils n'écoutent pas. Ils croient qu'ils vont guérir, peut-être pas.
Le personnel soignant, le message restez chez vous. Vous avez choisi vous aussi d'accompagner vos followers, comme on dit, vos fans en tout cas sur Twitter dans le confinement.
D'habitude, j'ai pas le temps, je m'occupe pas, mais là j'avoue que le confinement c'est cet avantage-là, c'est que c'est le côté positif, si vous voulez, de Twitter. On connaît tous la chose négative, hein, évidemment, les complots, les machins, tout ça. Mais il y a un côté très positif, c'est d'échanger comme ça. Et moi, comme je joue de la guitare et j'aime chanter tout ça, je sais que le meilleur discours pour parler de ça, et pour pas être moraliste ou je sais pas quoi, c'est de faire une petite chanson marrante. Et là, je suis très surpris du succès énorme de cette chanson. J'en ai fait deux qui voilà, donc ça m'amuse. Et voilà, c'est effectivement merci Internet pendant le confinement, parce que grâce à ça, on se relaie, quoi. Il y a un relais entre les gens, c'est formidable.
J'ai oublié de le mentionner hier. Je recevais le rappeur Booba dans ce contexte, et sur son compte Twitter, il y a écrit tant qu'il y a du Wi-Fi, il y a de la vie. J'avais oublié de le préciser.
C'est vrai, c'est fou.
Et puis alors, j'ai été aussi surpris, Frédéric Bourali, en découvrant ça.
J'étais en petite forme ce jour-là, je l'avoue, mais j'ai suivi un entraînement intensif depuis. J'interdis à tous les petits-enfants qui regardent cette émission d'essayer de refaire la même chose.
C'est pour les enfants qui ont grandi. Surpris d'apprendre que vous étiez la voix de Monsieur Satan dans Dragon Ball Z.
Vous pouvez vous marrer, hein, vous avez le droit.
Mais vous nous accompagnez, j'ai regardé Dragon Ball Z et je grandis maintenant, adulte, avec scène de ménage. Et Frédéric Bourali, au passage, je voudrais vous remercier parce que vous êtes vous êtes le premier invité inattendu à revenir jouer l'exercice, puisqu'on vous avait reçu pour parler de votre mandat fictif de maire il y a quelques mois.
Vous savez quoi, je m'en fous, je suis élu direct, j'ai le droit de dire ce que je veux, je vous trouve super.
Merci Frédéric Bourali. Un inattendu revenu. On va rappeler le travail de l'association L'Enfant Bleu, travail merci fondamental beaucoup. Et on rappelle, si vous avez un doute, le signalement, c'est pas de la délation, c'est du signalement, c'est venir en aide à des enfants qui n'ont peut-être pas d'autres protections. Le 01 56 56 62 62. Merci Frédéric Bourali.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Merci
sur Europe 1,
j'espère. Merci pour L'Enfant Bleu, merci beaucoup.
6h24, bon réveil à tous.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 et vous le savez, c'est la radio ouverte désormais. Le hashtag radio ouverte, le 3921 pour intervenir. Et vous vous trouvez dans une situation où votre émission est là, votre matinale est là et où nos programmes sont adaptés à la situation exceptionnelle. Mais on retrouve comme tous les matins désormais et à nouveau Fanny Agostini pour le rendez-vous à la ferme. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Fanny, on se questionne en ce moment sur la relocalisation de notre consommation. Et vous aviez envie de cibler ce matin une plante qui est devenue en moins de 10 ans une star de nos salles de bain, l'aloe vera.
Elle est connue effectivement pour ses nombreuses vertus, notamment pour sa capacité à régénérer et à hydrater la peau en profondeur. Du coup, chaque année, ce sont des millions de litres de pulpe d'aloe vera qui s'écoulent sur le marché mondial, une tendance qui s'accroît au rythme d'une demande toujours plus importante, ce qui entraîne la conversion de terres arables en vastes plantations de monoculture pour l'industrie alimentaire et surtout cosmétique. Et la vague bio ne fait que renforcer le phénomène. Alors que vous nous apprenez que l'on peut trouver exactement les mêmes propriétés dans une petite plante. Une plante passe-partout. Une petite plante insignifiante qui n'attire pas notre regard et pourtant elle présente des propriétés identiques à celles des produits que nous convoitons à plusieurs milliers de kilomètres. Il s'agit du sédum, connu aussi sous le nom d'orpin. C'est une plante grasse sauvage qui pousse sur des substrats très rudimentaires. Parfois, d'ailleurs, on en voit sur le bord des chemins entre les cailloux. Elle orne aussi beaucoup les jardins avec sa belle floraison, tantôt jaune, blanche ou pourpre. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa pulpe. Il suffit d'écraser le sédum sur la peau pour avoir des effets réparateurs et hydratants immédiats. On peut en faire pousser sur le balcon ? Non seulement on en trouve partout dans la campagne, mais en plus on peut aussi en faire pousser en appartement. Elle est très résistante, y compris en cas de sécheresse. Si vous oubliez de l'arroser, elle reprendra vigueur avec seulement quelques gouttes d'eau. D'autant que s'il n'y a que quelques mètres à franchir entre votre balcon et la salle de bain, le bilan kilométrique sera quasi nul face à sa concurrente Made in Mexico. L'aloe vera, sa réputation se ternir si nous prenons de nouvelles habitudes moins exotiques, mais tout aussi efficaces. Après, l'aloe vera pousse dans les appartements aussi, mais essayons. Découvrons ensemble le sédum. D'ailleurs, vous l'aviez fait découvrir, cette plante, si je ne dis pas de bêtises, à Nicolas Hulot dans votre émission En Terre Ferme sur Ushuaïa TV. Parce que je vous suis, Fanny Agostini. On retrouve le rendez-vous à la ferme sur Europe1.fr. Il est 6h27.
Matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
La radio ouverte, c'est Europe 1. Le hashtag radio ouverte est le 3921 pour intervenir comme l'a fait Philippe qui est à Nantes. Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour Mathieu Béliard.
Vous tenez une boutique informatique et vous êtes confronté au chômage partiel.
Absolument. Notamment au niveau accueil et commercial, parce que là il n'y a vraiment plus rien du tout à faire au niveau commercial. On continue à faire de l'assistance gracieusement pour nos clients qui sont en télétravail.
Bah oui, parce qu'on a besoin de vous. Vous faites partie de ces métiers qui tournent en ce moment.
Absolument. Mais ce que je voulais dire, c'est justement pour le chômage partiel. Il y a une plateforme effectivement sur laquelle on s'est inscrit. Mais depuis, c'est très très compliqué, à savoir qu'on doit recevoir 3 mails pour pouvoir enfin faire les démarches pour pouvoir ou pas bénéficier d'ailleurs de chômage partiel. Les mails n'arrivent pas forcément dans le bon ordre. Il y a un numéro vert qu'on n'arrive pas à joindre. Enfin, c'est complètement. Enfin, je trouve que le système informatique de l'État, il est quand même dans.
Ouais, en fait, si je vous suis, Philippe, il y a la réalité du terrain, c'est vous. Il y a la volonté de l'État avec des annonces fortes qui ont été faites. Et puis il y a l'administration entre les deux, quoi.
Et c'est exactement ça. Ce qui m'a rassuré, moi, à mon niveau, c'est de dire, bon, bah, effectivement, l'État a l'air de mettre en face les moyens pour qu'on puisse supporter cette crise qui sera également une grosse crise économique. Mais la réalité, c'est exactement ça, c'est que c'est au niveau de l'administration, ils vous disent même que c'est normal, qu'il y a des mails qui sont perdus, qui ne sont pas envoyés aux bonnes personnes, on ne reçoit pas les mots de passe au bon moment, enfin c'est dramatique. Et la deuxième chose très rapidement que je voudrais souligner, c'est
allez-y, on a le temps.
Nous les patrons de PME, PMI, ce qui serait bien aussi, c'est que l'administration respecte ses délais de paiement. Moi c'est très flagrant, petites entreprises, je les ai appelées, elles ont joué le jeu, on a réglé nos factures, etc., parce qu'on sait que ça va être compliqué au niveau de réseau. Par contre, l'administration, ah bah non, on est en confinement, on fait que du télétravail.
Mais c'est vrai que sur les délais de paiement, c'est souvent l'État est le mauvais élève, bien souvent sur cette question-là. Philippe, je peux vous rappeler à 8h30 ?
Avec plaisir.
Mais vous savez, on reçoit le gouverneur de la Banque de France avec Sonia Mabrouk, François Villeroy de Gallo. On va parler justement du financement de l'activité et des difficultés pour les entreprises. J'aimerais qu'il entende votre témoignage, notamment sur l'administration, Philippe. On va vous rappeler tout à l'heure. On prend rendez-vous. C'est dans 2 heures. Vous restez avec nous d'ici là, Philippe à Nantes, qui a composé le 39-21. Il a eu bien raison. Bonjour, rebonjour Laurent Cabrol.
Rebonjour.
Après Philippe et les affres de l'administration, vous êtes dans les cartes météo France.
Oui, les cartes de météo, vous savez. Le temps est un peu comme hier et demain il sera un peu comme aujourd'hui, ça ne change pas trop. Alors nous avons quand même, je vais donner quelques températures à nos amis, si vous êtes sous la couette vous allez en profiter, vous dire tiens chic alors, hein, on est bien chez nous. -5, c'est peut-être le seul moment de la journée, -5 à Vichy et au Puy, -4 4 à Luxeuil, Guéret, Épinal et Saint-Étienne. Moins 2 à Clermont-Ferrand en ce moment. Hein. Nevers, moins 1 à Orléans et Strasbourg. Besançon, Langres, Lyon autour de 0-1. Caen, Lille, Brest, 2-3. C'est pas des matchs de foot, mais presque. 4 à Paris, Bourges, Rennes, Cognac, Nantes, 4-6. Et puis entre 7 et 8 à Bordeaux et à Bayonne. Alors le soleil sera là, hormis sur le sud du Massif central, grosso modo les Cévennes, les Alpes du Sud, l'Aveyron, nous aurons un peu un temps nuageux. Et puis le vent marin qui apporte un peu de pluie sur l'Aude, sur le Tarn et sur les Cévennes aussi. Nuages menaçants sur le Pays Basque, mais voilà. Bon bref, ce sont des petites nuances dans l'extrême sud. C'est là qu'il fait le moins beau, mais partout ailleurs, le soleil sera là, car ce sera un grand, grand soleil pour vous tous avec 12 à 16 degrés dehors.
On va pouvoir profiter du soleil par la fenêtre. Merci beaucoup Laurent Cabrol. Il est 6h30, on retrouve François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1.
Il faut essayer de repérer parmi les soignants, ce soignant zéro, qu'ils sortent de l'EHPAD pour ne pas contaminer les autres résidents.
Trouver le soignant zéro, le médecin ou infirmier qui, dans un établissement pour personnes âgées, introduit malgré lui le coronavirus. L'idée fait son chemin en Occitanie, qui teste cette méthode pour bloquer l'épidémie. Comment se passera le déconfinement? Le Premier ministre Édouard Philippe a donné des premières indications hier à l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, nouvelle déclaration choc de Donald Trump qui prévoit à ses concitoyens des semaines très très douloureuses. Et puis chez nous, visiblement, le confinement profite à l'imagination des délinquants de tout genre. Faux gendarmes, arnaque au gel hydroalcoolique, sans parler de cet excès de vitesse à 251 km/h sur une rocade déserte, certes, mais limitée à 90. Votre invité dans des minutes, Mathieu.
C'est Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Il a travaillé précisément sur les fake news et le complotisme sanitaire. Pas de blague en ce 1er avril, on en parle dans 10 minutes. 6h31, bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Ils sont très attendus et redoutés aussi. Les premiers chiffres officiels du nombre de morts du coronavirus dans les EHPAD, ça devrait être donné aujourd'hui. Jusqu'à présent, les autorités communiquaient un décompte venu seulement des hôpitaux.
En attendant, plusieurs méthodes sont expérimentées pour protéger nos aînés. Souvent, le personnel s'est confiné lui aussi et ne sort même plus de l'établissement. En Occitanie, on teste une autre stratégie, repérer les cas de Covid-19 parmi les soignants. Les explications de notre correspondant à Toulouse, Benjamin Péter.
L'idée, c'est de repérer le soignant zéro, celui qui aurait pu faire entrer le virus dans cet espace clos puisque les visites des proches sont désormais interdites. Dès les premiers signes, isoler les patients et mener l'enquête, une stratégie imaginée par deux chefs de gériatrie des CHU de Toulouse et Montpellier, dont le professeur Yves Roland.
Il faut essayer de repérer les premiers patients. Il peut y avoir des signes qui sont assez trompeurs, notamment des signes non respiratoires, de la diarrhée, de syndrome confusionnel, qui peuvent être annonciateurs d'un Covid. Il faut les isoler, les surveiller de près pour peu qu'ils présentent les symptômes au bout de 7 jours. Il faut les tester. Et ensuite, repérer également parmi les soignants, ce soignant zéro, qu'ils sortent de l'EHPAD pour ne pas contaminer les autres résidents.
Si un cas suspect est signalé, des équipes mobiles du CHU assurent les tests sur place, un protocole rassurant pour Véronique Gémard, qui dirige la résidence Maisonneuve à Villefranche-de-Lauragais.
C'est ce qu'on doit appliquer en cas de suspicion, en cas de diagnostic et pour la prise en charge de la personne qui serait diagnostiquée éventuellement. Ça nous permet quand même d'être préparé plus sereinement.
Et les médecins des EHPAD ont également accès à une hotline pour bénéficier d'une expertise en visio, tout ça pour gagner du temps, éviter que la situation d'un établissement ne devienne incontrôlable. Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
En Ile-de-France, la situation est critique. On est tout proche d'une saturation des services de réanimation. 36 patients vont être évacués aujourd'hui dans 2 TGV médicalisés, destination la Bretagne, où il y a encore des lits disponibles.
Les autorités de santé lancent un appel aux volontaires parmi les médecins, infirmiers, aides-soignants qui pourraient venir aider leurs collègues d'Ile-de-France et du Grand Est. Ils seront hébergés gratuitement sur place.
Chaque soir, les soignants au sens large continuent à être applaudis depuis nos fenêtres partout en France. Eux qui sont en première ligne font face à un travail extrêmement intense et qui montent encore en difficulté avec le manque de matériel. Comme le raconte très concrètement Paola, cette infirmière en réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
Ce qui est hors norme, c'est l'ampleur. La plupart des patients sont ventilés, font du décubitus ventral, donc avec le patient sur le ventre pendant 16 heures. Et c'est compliqué parce qu'il faut vraiment être très très attentif à tout. Les points d'appui pour pas que les gens fassent d'escarres, qu'il n'y ait pas un tuyau coincé parce que la personne a la tête de travers. Le problème, c'est que souvent, on a un décubitus ventral pour 18 malades. Là, en fait, on a quasiment 10 décubitus ventral pour 12 malades Covid. C'est énorme. Je vais être honnête, j'ai même pas le temps de penser si j'ai peur, si j'ai pas peur, si je suis fatiguée, pas fatiguée. C'est le soir en rentrant où on continue à cogiter sur tout ce qu'on a fait ou on n'a pas fait. Mais Là, au quotidien, quand j'arrive dans le service, moi, quand le matin, j'arrive à 7h30 et que je repars peut-être à 16h, peut-être à 20h, les seules questions que je me pose, c'est il faut être efficace, il faut essayer d'aller vite, il faut essayer de bien faire.
Paola, une infirmière d'hôpital à Paris, elle répondait à Hélène Terzian pour Europe 1.
Une population est particulièrement touchée par le coronavirus, ce sont les personnes sans domicile fixe. Un millier d'entre elles sont atteintes, selon le ministre chargé du logement, Julien de Normandie.
Il annonce dans le journal Ouest France un système de chèque service, 15 millions d'euros au total, débloqués à destination de 60 000 SDF pour qu'ils puissent se procurer nourriture et produits d'hygiène et de santé. Alors que commence aujourd'hui le mois d'avril, qui risque d'être totalement ou quasi totalement passé en confinement pour la population française, la question de la fin de cette mesure drastique se pose.
Édouard Philippe l'a évoqué hier à l'Assemblée nationale devant les 9 députés présents.
Et les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir déconfiner sont encore à l'étude et dépendent très largement de l'efficacité du confinement, de la capacité d'accueil dans les services de réanimation. Puisque je renvoie à la stratégie globale qui est la nôtre, nous voulons veiller à ce que le virus ne circule pas à un rythme tel qu'il déborderait les capacités nationales d'accueil dans les services de réanimation. Dès lors, le déconfinement devra prendre en compte la réalité de la diminution des cas d'entrée en réanimation. Aucun d'entre nous ici, quelles que soient ses orientations politiques, ne souhaite que le confinement dure trop longtemps. Mais personne n'accepterait non plus que le déconfinement se traduise immédiatement parce qu'il n'aurait pas été accompagné d'une bonne politique de test, parce qu'il n'aurait pas été accompagné d'une bonne politique de préparation, par une augmentation immédiate, renouvelée, du nombre de cas sévères qui devraient être accueillis dans les hôpitaux.
Le Premier ministre qui sera auditionné ce soir à 18h avec le ministre de la Santé Olivier Véran par visioconférence, c'est le début de la mission d'information menée par l'Assemblée nationale sur la gestion de l'épidémie.
En bref, le gouvernement annonce deux reports liés à cette crise. La réforme des APL d'abord, qui devait entrer en vigueur aujourd'hui. L'autre décalage concerne la déclaration de revenus pour nos impôts. Elle commencera, Mathieu, le 20 avril et non pas le 9.
Une nouvelle qui attriste toute une ville. Et le monde du foot. Pape Diouf, président de l'Olympique de Marseille pendant 4 ans, est mort hier soir du coronavirus. Il devait être transféré du Sénégal, son pays natal, vers la France pour être pris en charge à Nice, mais son état s'est détérioré dans la soirée.
Dirigeant le club jusqu'en 2009, il avait fait venir Didier Deschamps au poste d'entraîneur, qui portera l'OM au titre de champion de France en 2010. Le président sénégalais Macky Sall a réagi, saluant une grande figure du sport, une éminence grise du football. Pape Diouf avait aussi été journaliste à la Marseillaise et agent de joueur. Il avait été candidat à la mairie de Marseille il y a 6 ans. Aux États-Unis, où l'on compte 188 000 cas du coronavirus, le président Donald Trump met en garde ses compatriotes face aux jours très difficiles qui s'annoncent. Il a fait hier une déclaration très forte à la télévision.
Je veux que chaque Américain se prépare pour les jours difficiles qui s'annoncent. Nous allons traverser 2 semaines très dures. Et puis j'espère, comme les experts le prédisent, que nous commencerons à voir la lumière au bout du tunnel. Mais ça va être 2 semaines très, très douloureuses. Quand vous regardez le genre de mort causée par cet ennemi invisible, oui, c'est un fléau.
Donald Trump hier, traduit par notre correspondant Xavier Yvon.
Attention aux arnaques, et ce n'est pas une fausse info de 1er avril, les escroqueries se multiplient en ce moment. La gendarmerie alerte contre les faux contrôles dans la rue où l'on vous demande de payer l'amende en liquide.
Oui, c'est l'un des exemples de l'imagination des malfaiteurs ces jours-ci, comme nous le décrit Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe.
Les masques et le gel hydroalcoolique sont devenus des denrées très prisées, vendues jusqu'à 10 fois plus cher sous le manteau dans certaines pharmacies, malgré les réquisitions de l'État. Certains escrocs n'hésitent pas à proposer des stocks périmés ou non conformes. Ne croyez pas non plus faire de bonnes affaires en ligne. La majorité des annonces sont des leurres pour vous orienter vers des liens malveillants. Les escrocs récupèrent ainsi vos données. Les arnaques à la fausse qualité se multiplie aussi. Un faux médecin qui fait du porte-à-porte à Valence pour vendre très cher des tests de dépistage, ou bien encore le prétendu directeur de l'agence régionale de santé qui, depuis quelques jours, contacte les EHPAD des Yvelines pour obtenir des masques. Enfin, méfiez-vous des appels aux dons envoyés par mail au profit soi-disant des soignants ou des malades. Vérifiez toujours l'identité de l'expéditeur avant de faire le moindre virement.
Et puis comme les routes sont désertes, certains imaginent visiblement qu'il n'y a plus de contrôle de vitesse. Grossière erreur, policiers et gendarmes ont d'ailleurs enregistré des records de vitesse. Plus de 250 km/h au lieu de 90 la semaine dernière sur la rocade de Bordeaux.
Ça fait beaucoup plus, oui. Autre exemple édifiant dans l'Essonne. Écoutez la chef des gendarmes du département, la colonelle Karine Lejeune.
Sur les 6 derniers jours, nous avons eu 34 rétentions de permis de conduire sur des grands excès de vitesse qui sont au-delà de 40 voire 50 km/h au-dessus de la limite autorisée. Au cours des 3 derniers jours, nous avons un véhicule qui a été saisi judiciairement, pris à 183 km/h au lieu de 90, et ce week-end, 2 motos qui étaient respectivement à 188 et 251 km/h au lieu de 90. Donc, il faut respecter les limitations de vitesse. On voit beaucoup trop de gens qui, sur des routes désertes, considèrent que c'est une certaine liberté tout d'un coup qui peut être prise. C'est risquer à la fois sa vie et celle des autres et de devoir engager des moyens qui, à l'heure actuelle, doivent être à 100% dédiés à la lutte contre le virus du Covid-19.
La colonelle de gendarmerie Karine Lejeune, jointe par Guillaume Biet pour Europe 1. Et puis, la mort de Pierre Bénichou hier, sans lien avec le coronavirus. Bénichou, c'est l'homme qui m'aura fait le plus rire depuis 20 ans. C'est lui qui est parti. Les mots sont signés Laurent Ruquier, qui a travaillé avec Pierre Bénichou pendant de longues années, notamment dans sa bande dont va se gêner sur Europe 1. Pierre Bénichou, qui avait aussi eu une carrière au Nouvel Observateur.
Merci François Geffrier. À 7h, un nouveau journal avec Hélène Zélani. Une alerte des 9 plus grands hôpitaux d'Europe, dont l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Ils seront bientôt à court de médicaments essentiels aux patients atteints du Covid-19 en réanimation. Je vous le rappelle, je reçois aussi le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament à 7h40. Mais la question est à la une dès le journal de 7h. Il est 6h41. Je l'ai dit et répété déjà, 8h15, François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France au micro de Sonia Mabrouk. Dans le contexte, c'est évidemment une voix à entendre ce matin. Après les questions de Sonia Mabrouk, il restera pour répondre à vos questions. Épargnants, investisseurs, chefs d'entreprise. Mais les questions aussi très concrètes sur la contamination de l'argent liquide. Les distributeurs à sec aussi, vous lui posez vos questions, vous le savez, au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. 9h, votre matinale prolongée avec un coup de pouce, chers parents. Les vacances approchent, déjà que le télétravail et l'école à la maison, c'était compliqué. Comment s'organiser? Comment rythmer 15 jours de congés confinés? Nous serons avec Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre et auteur des 101 règles de l'éducation bienveillante, avec vous surtout au 3921. Pour l'heure, à 6h40, je reçois Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour.
Pas de blague en ce 1er avril. Donc, on a déjà ce qu'il faut avec cette crise du coronavirus. Vous avez coordonné cette étude de IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch sur le complotisme autour du Covid-19, enquête parue le week-end dernier. D'abord, c'est typiquement le genre d'événement qui inspire les complotistes, hein.
Alors absolument, alors il n'y a pas uniquement les événements et les crises sanitaires qui inspirent les complotismes. On s'aperçoit maintenant dans nos sociétés contemporaines que chaque crise, chaque événement majeur génère sa propre grille de lecture complotiste, sa propre grille de lecture conspirationniste. Mais c'est vrai que aujourd'hui, avec cette crise du Covid-19, on a tous les ingrédients typiques, à la fois dans le type de crise et dans les modalités de la crise, à savoir le confinement, le fait que les individus sont chez eux, potentiellement à consommer beaucoup d'écrans et beaucoup de réseaux sociaux. On a tous les ingrédients, évidemment, pour que le complotisme fonctionne.
Et oui, le facteur confinement en plus. Et les Français, alors, ils adhèrent ?
Alors, nous, ce qui était intéressant justement dans cette enquête qu'on a menée avec Rudy Redstad, Jérôme Fourquet et donc la Fondation Jean Jaurès, c'était de comparer avec une étude américaine qui a été menée justement sur ce sujet. Une étude américaine qui a été publiée il y a quelques jours montrait que 29% des adultes américains pensaient que le virus avait été fabriqué en laboratoire. Et donc, on s'est dit, ça serait très intéressant de reprendre les mêmes questions et de le tester en France. Et on s'aperçoit qu'en France, quand bien même vous avez une majorité de Français, 57%, qui est d'accord avec la thèse scientifique, à savoir que le Covid-19 est apparu de manière naturelle, on a 26% des Français, un Français sur quatre, qui adhèrent à l'idée selon laquelle le virus a été conçu en laboratoire, soit de façon intentionnelle, soit de façon accidentelle.
Ça, c'est la grosse infox qui circule le plus, peut-être le coronavirus fabriqué dans un laboratoire. Il y a aussi l'idée que c'est une épidémie montée de toutes pièces par telle ou telle puissance étrangère, ou alors encore la 5G qui aurait pu accélérer la propagation de l'épidémie. Bref, il y a ce qu'il faut. Mais voilà. Quand on entend dans votre étude qu'un quart des Français pensent que le Covid-19 a été créé en laboratoire, Jérémy Pelletier, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le croire ?
Écoutez, aujourd'hui, je crois que le génome est connu, commence à être connu de la part d'un certain nombre de scientifiques. Je veux dire, il y a tous les scientifiques de la place mondiale qui maintenant travaillent et qui s'intéressent à ce génome. Quand bien même c'est un génome qu'ils connaissaient peu, quand bien même c'est un virus, ils l'ont beaucoup dit, qu'ils connaissaient peu. Mais aujourd'hui, tout le monde sait et tous les scientifiques savent qu'il ne s'agit pas d'un virus fabriqué en laboratoire, comme ça a pu être le cas par d'autres virus. Pour le coup, par le passé, il ne s'agit pas de nier cela. Mais c'est prouvé, ils savent désormais que le virus est sauvage. Il reste encore à prouver exactement la provenance, mais c'est prouvé que ce virus est sauvage.
Donc, si je vous posais la question ainsi, Jérémy Pelletier, je me permets, c'est parce que dans le discours officiel, il y a aussi eu beaucoup de vérités assénées qui se sont avérées fausses par la suite. Évidemment, je pense en particulier à ces experts qui nous ont longtemps dit que ce n'était qu'une grippette.
Bien sûr, mais ça relevait, je pense, de la méconnaissance et du caractère extra.
Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le facteur d'incertitude et la difficulté que peuvent avoir certaines personnes à dire ben, sur ça, je ne sais pas, ou sur ça, on avance, on ne sait pas encore, le gros point d'interrogation qu'il y a laisse la place ouverte à un champ des possibles inimaginables.
Oui, ça peut alimenter le doute, sauf que le complotiste est différent, je dirais, du doute, du simple bon esprit critique, tel que voudraient essayer de nous le démontrer, d'ailleurs, ceux qui défendent et ceux qui alimentent ces thèses. Une théorie du complot et un délire, je dirais, complotiste, c'est une dimension paranoïaque de la société. Savoir une dimension paranoïaque de la vie, c'est considérer que quelqu'un tire les ficelles, qu'un groupe d'individus tire des ficelles et que quelqu'un va tirer profit de la situation. Très sincèrement, penser que qu'un groupe a fabriqué intentionnellement le virus pour tirer profit d'une situation qui met au banc plus de la moitié de l'humanité, c'est une vraie vision complotiste, c'est une vision paranoïaque qui considère et dans laquelle vous avez l'impression que vous êtes assiégé, attaqué par un groupe d'individus.
Et le rôle des politiques dans tout ça, je pense évidemment à Marine Le Pen qui estime que la question est légitime. Alors soit le rôle des politiques, soit la question de l'appartenance politique des personnes que vous avez sondées.
Alors, vous avez raison de poser la question, c'est très intéressant. Justement, ce que montre l'enquête et ce que montre cette enquête, c'est que on n'a pas des publics, je dirais, dans les publics les plus perméables, qui adhèrent le plus facilement aux théories du complot, on n'a pas des publics différents que ce qu'on voit habituellement dans nos enquêtes. On a les plus jeunes, qui adhèrent beaucoup plus facilement aux théories autour aux théories complotistes autour du Covid-19. On a les catégories sociales les plus pauvres. Et on a en effet les sympathisants du Rassemblement National, où on s'aperçoit dans notre enquête qu'on a 40% des sympathisants du Rassemblement National qui considèrent que le virus a été conçu en laboratoire de façon intentionnelle, ce qui est colossal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça répond à un historique en fait du Rassemblement National, du Front National, depuis 30 ou 40 ans, qui a toujours surfé pour essayer de montrer qu'il y avait de l'opacité à travers des crises sanitaires. Et donc, quand Marine Le Pen dit que le doute est permis, qu'elle considère comme légitime de penser que le virus a été conçu en laboratoire, elle répond à sa base, elle répond à son électorat. Et je pense aussi que ça correspond à son idéologie.
Et simplement, ce sera ma dernière question. Est-ce que ça a du sens, vous qui travaillez sur ces questions-là, et là c'est presque une question pour nous dans les rédactions, est-ce que ça a du sens de combattre ces théories ou est-ce qu'au contraire, finalement, on en éteint une, il y en a trois qui apparaissent et on leur donne de l'écho ?
Non, je pense que ça a du sens, je pense que c'est très important. On s'aperçoit que dans la séquence dans laquelle on est, en gros, on n'a pas réussi à endiguer la vitesse de propagation des théories autour du Covid-19. On s'aperçoit que les théories du Covid-19, par rapport à d'autres théories plus anciennes, plus classiques, ont une visibilité sans commune mesure par rapport à d'autres théories plus classiques et plus anciennes. Et je crois que c'est très important parce que les théories du complot peuvent mettre à mal la confiance qui est nécessaire pour que les gens respectent les politiques publiques défendues par le gouvernement et donc faire preuve en permanence de transparence, de pédagogie et de décryptage comme peuvent le faire les médias comme les vôtres, c'est quelque chose de très important dans la séquence pour créer du consensus.
Je vais m'appuyer aussi sur nos auditeurs, si vous le voulez bien, Jérémy Pelletier. Je vais lancer un appel parce qu'en ce moment, on est confinés. Donc, on a souvent au moins deux générations qui sont rassemblées dans un foyer, qui consomment via leur smartphone, justement, de l'information vraie ou fausse. Et j'imagine qu'à table, vous échangez sur ce que vous lisez, qu'en ce moment, sur les groupes WhatsApp, on s'envoie des articles sans avoir toujours vérifié, bien sûr. N'hésitez pas à témoigner ce matin au 3921 sur le hashtag Radio Ouverte, sur ces échanges que vous pouvez avoir à la maison. Jérémy Pelletier, merci beaucoup. Directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, merci d'être venu nous éclairer ce matin sur Europe 1.
Merci à vous, bon courage.
Il est 6h49.
Europe 1.
Notre revue de presse internationale dans quelques secondes. La Hongrie, Israël et la Thaïlande. À tout de suite.
matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
7h10 précisément, et comme tous les matins, à cette heure-ci, notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous démarrons en Israël ce matin avec Clotilde Bravko. Bonjour Clotilde.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous ?
Ici, la lutte contre le coronavirus mobilise tout le monde, y compris le Mossad. Les journaux israéliens racontent ce matin que la célèbre agence de renseignement est en mission pour ramener des respirateurs et des millions de masques chirurgicaux. On est le seul pays au monde à mettre nos espions sur le coup, s'étonne l'éditorialiste du journal Haaretz, qui raconte que le premier ministre israélien a surtout trop tardé pour prendre en main les choses. Le Jérusalem Post lui cite Al Jazeera et laisse entendre que si le Mossad est mobilisé, c'est parce qu'Israël achète secrètement des stocks aux pays arabes du Golfe, des États avec lesquels il n'a officiellement pas de relations. Mais les espions israéliens ne sont pas encore tout à fait rodés. Il y a 2 semaines, ils ont acheté des kits de tests qui n'étaient pas les bons.
Clotilde Mravko en Israël pour Europe 1. Joël Le Pavouz est en Hongrie. Bonjour Joël.
Bonjour Mathieu.
À la une en Hongrie.
Gouvernance par décret pour une durée indéfinie, suspension des élections et possibilité de déroger à n'importe quelle loi. C'est ce régime d'exception accordé à Viktor Orban au nom du coronavirus qui défraie la chronique en Hongrie. Le Premier ministre voulait un pouvoir sans limite et l'a obtenu, dénonce le journal Magyarhang. Le dirigeant hongrois affirme qu'il rendra le pouvoir au Parlement dès qu'il le demande, mais peut-on croire en la mesure d'une administration ayant mis au pas la Cour constitutionnelle, la magistrature, l'autorité de contrôle des médias et l'audiovisuel public, s'interroge le 24.hu. L'opposition dit non à notre sécurité en hurlant à la dictature, rétorque le quotidien Magyar Hírlap. Le plan d'Orban est simple, selon plusieurs députés de l'opposition cités par Index, entretenir la peur, décrédibiliser ses adversaires et jouer les sauveurs de la patrie afin d'assurer sa réélection en 2022.
Joël Le Pavouz, en Hongrie, pour Europe 1. Carole Izou est en Thaïlande. Bonjour Carole.
Bonjour Mathieu.
Un débat chez vous ?
Oui, un débat qui se résume en une question. Où est donc passé le roi ? Ramadis, qui selon des journaux allemands et néerlandais, serait confiné dans un palace bavarois avec une partie de sa cour et une vingtaine de concubines. On sait que la reine Soutida est rentrée d'Europe il y a quelques jours, mais sans son mari. La nouvelle n'est pas répercutée comme telle dans la presse thaïlandaise, ce serait un crime de lèse-majesté. Mais on commence à voir poindre une interrogation, voire une critique de la monarchie, ce qui aurait été impensable il y a encore quelques mois. C'est sur les réseaux sociaux que cette critique se fait la plus vive, avec le hashtag « Pourquoi avons-nous besoin d'un roi ?» qui a été partagé plus d'un million de fois ces derniers jours, à tel point que le ministre de l'économie digitale rappelle aujourd'hui dans le quotidien de Bangkok au sujet de sa majesté que toute critique de la couronne peut valoir jusqu'à 15 ans de prison.
C'est peut-être pour ça que vous chuchotez, Carole Izou. Effectivement, en Thaïlande, c'est une quasi-révolution. Carole Izou, en Thaïlande, nous étions en Hongrie, en Israël aussi. C'est la revue de presse internationale et c'est tous les matins sur Europe 1, 6h53. Vous savez quoi ? Un peu de musique. There's a place in your heart. Et vous savez quoi ? C'est juste pour le plaisir. Aucun début d'actualité autour de Heal the World de Michael Jackson, si ce n'est un tweet de Thierry qui m'a écrit il y a quelques minutes seulement, à 6h25. Merci de nous passer un petit extrait de Heal the World de Michael Jackson. On en a bien besoin en ce moment, ce serait sympa. Protégez-vous et bonne journée. Eh bien, bonne journée à vous Thierry. Il a raison Thierry, ça fait du bien en plus, très belle idée. Alors on va pas faire les disques à la demande tous les matins, vous le savez, on a un programme, on raconte l'actualité et puis on vous écoute sur le confinement évidemment. Mais là, j'ai vu passer ce tweet et je me suis dit, allez, ça coûte pas plus cher de faire plaisir à Thierry. Il est 6h54. Dans un tout petit instant, on va retrouver Mathieu Noël, évidemment, son équipe sauvage, la météo de Laurent Cabrol et le journal de 7h avec Hélène Zélani. À tout de suite.
Nocturne, bouffée de chaleur, de nombreux déséquilibres touchent les femmes à la ménopause. Manae est la solution d'origine naturelle sans hormones pour se sentir bien. Retrouvez nos solutions Manae dédiées aux femmes, ménopause, minceur, capillaire, en pharmacie et parapharmacie. Manae, source naturelle de féminité. Pour votre santé, limitez les aliments gras salés sucrés.
Audible, raconte-moi une histoire.
Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande
pour
partie
grandir,
de l'ouest de...
Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière
il
de
marcha
voir
dans la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers mots.
Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle.
Téléchargez l'appli Audible
Votre premier livre audio est offert.
Matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
6h55 sur votre radio ouverte Europe 1. Nous retrouvons Mathieu Noël, comme tous les matins, en direct de chez lui. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu. Bah écoutez, on va pas se mentir, aujourd'hui nous sommes à l'aube du 1er avril, le plus pourri de toute l'histoire des 1er avril. Vu l'ambiance, je doute que quelqu'un se permette en effet de faire un poisson. Personne n'a trop la tête à ça. Heureusement, pour vous changer les idées, il y a l'équipée sauvage. 2 heures de bonne humeur, d'infos qui font du bien et de conseils aussi pour mieux vivre le confinement. Le mot d'ordre, vous le savez, gardez le sourire. À ce propos, je note que l'épidémie n'entame pas votre morale non plus, mon cher Mathieu, ni celui de votre acolyte météorologique Laurent Cabrol, qui reste gai malgré le contexte anxiogène. Bon, il faut dire que les précédentes épidémies qu'il a vécues, la grippe espagnole en 1918 et la grande peste en 1347, l'ont blindé d'anticorps. Hein. Il est donc en pleine forme et ça s'entend à l'antenne.
Mais, il fait froid, mes amis. Il va falloir montada et le chauffage haut. Parce que.
Je vois que vous êtes bilingue.
Moins 4 à Épinal, moins 3 à Rome. Non, pas à Rome, à Roanne.
Dieu.
Oh là 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 là.
Mais c'était de l'espagnol, du, je sais pas, catalan, c'était italien peut-être.
Cabrolo, j'ai vu Cabrolo.
Il va falloir montada et le chauffage haut.
Alors cet après-midi, vamos à écoutar l'équipado sauvage haut, les amis. Aujourd'hui, on prend les nouvelles de la grande Sophie. Heureusement que vous êtes là, Lolo. Hein.
Pardonnez-moi, j'ai du mal à reprendre.
Oh, il n'en reste pas une. Hein.
Je monte à dans le chauffage de ce pas, mes amis. Merci Mathieu Noël, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Et Laurent Cabrol, toujours là avec nous, évidemment, pour la météo dans quelques petites secondes. Mais d'abord, vous nous appelez, vous partagez votre expérience de confinement et les conséquences de cette crise du coronavirus au 39-21 tous les matins. Et Aude nous a joint. Bonjour Aude.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur Europe 1, ma chère Aude. Et là encore, vous êtes passée par Twitter aussi, hein, le hashtag Radio Ouverte, pour nous parler de votre cas. Vous êtes chef d'entreprise, je crois que vous tenez un garage.
Alors j'en tiens deux.
Deux garages, 10 employés, 2 apprentis, je vois sur ma voilà. fiche, et des inquiétudes pour les semaines à venir.
Oui, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que, donc en ayant 2 garages, on est un peu plus de 1 million de chiffre d'affaires. Et en fait, je me rends compte que moi, donc là, on a fait toutes les démarches en fait pour le chômage partiel, sachant qu'on n'est pas sûr que ça soit accepté. Et nous, au niveau perso, on n'a aucune aide.
Donc, parce que vous dépassez 1 million de chiffre d'affaires.
Voilà, parce qu'on dépasse 1 million de chiffre d'affaires et que les aides allouées à l'État, donc je pense que c'est maximum 1 500 euros, ne sont que pour les gens qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires.
Et du coup, vous n'avez pas de revenus du tout. Là, vous êtes fermé, hein, Aude ?
Oui, là, on est fermé
complètement.
Depuis le 16 à midi, puisque tous nos clients nous ont appelés pour annuler les rendez-vous.
Et au-delà de la question purement financière, permettez-moi, enfin économique, hein, pour la survie de votre entreprise, hein, elle est primordiale, cette question. Mais vous, Aude, ça doit évidemment vous affecter aussi personnellement.
Ah oui, tout à fait. Ah oui. Non, mais là, au bout de la première semaine. Avec le flot d'informations qu'on a eu par les différents constructeurs, parce que bien sûr, je n'ai pas de même marque au sein de mon entreprise, j'avais des informations contradictoires. Donc, vous restez chez vous pour une marque, l'autre, elle nous disait de travailler, mais on n'a pas de masque, on n'a pas de gants. Ils nous demandent d'aérer les voitures pendant 10 minutes, mais on sait très bien que le Covid-19 ferait bien plus que 10 minutes sur les sièges en tissu, donc voilà, donc pour moi c'était pas pour travailler.
Évidemment, et on va beaucoup parler de ces questions d'organisation. Alors, je pense à la fois aux entreprises, la survie des entreprises, la vôtre, Aude, bien sûr, et aux entrepreneurs ce matin. L'éclairage éco de Nicolas Barré ce matin, le financement des États qui ont promis de déverser plein d'argent, mais comment on va le financer? Le monde bouge avec Axel de Tarlet, les jeunes poussent, les start-up, est-ce que le Covid va les terrasser? On va surtout recevoir à 8h15 François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, et vous pourrez lui poser vos questions. Votre cas, Aude, m'intéresse pour François Villeroy de Gallo. D'autres cas se reconnaîtront peut-être dans ce témoignage. 39-21, c'est maintenant. N'hésitez pas. 39-21 et le hashtag Radio Ouverte.